Le deuxième était le seul.
Transistor.
Bonjour et bienvenue dans la nouvelle émission Transversar, où finalement avec cette nouvelle année et cette nouvelle équipe, nous allons vous proposer une nouvelle formule d'émission. Alors je tiens à rappeler que l'année dernière, Nina Léger et Célia Clermont ont fait un vrai travail avec cette émission et qu'elles ont posé beaucoup de bases. Nous les en remercions aujourd'hui et nous leur tirons notre chapeau. Et nous allons reprendre l'émission cette année avec une équipe beaucoup plus large, d'une dizaine d'animateurs environ, pour pouvoir donner un nouveau rythme à l'émission. Alors je vous en donne le principe rapidement. L'idée c'est en gros de faire une émission par semaine avec à chaque fois une spécificité artistique. Par exemple, cette semaine nous allons faire une émission spécifiquement art visuel, art contemporain. Et la semaine prochaine vous aurez le droit à une émission cinéma suivie la semaine suivante d'une émission consacrée au théâtre et aux pratiques de mise en scène. Enfin, une fois par mois, l'équipe de Transversar vous concoctera une petite table ronde où vous pourrez recevoir le dialogue des arts en direct, où finalement nous débattrons sur des spécificités artistiques, des différences de méthode dans les pratiques théoriques, etc. Bientôt sur Transversar, donc ces tables rondes et ces différentes émissions. Et pour le moment, donc avec Estelle, Thibault et moi-même, nous allons vous présenter la première émission du nouveau cycle, donc consacrée aux arts visuels. Et vous pourrez également trouver sur la page de Transversar une chronique de Nina Léger, donc en direct de New York, une chronique appelée « Sirène, chronique new-yorkaise ». Alors l'idée générale de Transversar est quand même de partir de l'actualité et de partir des œuvres qui pour nous, aujourd'hui, nous paraissent porteuses de sens et qui ont un intérêt également plastique, évidemment. C'est pourquoi nous nous tournons aujourd'hui vers la Biennale d'art contemporain, Biennale qui a ouvert ses portes le 15 septembre, vous ne l'ignorez pas, donc qui se situe dans 4 lieux différents. Tout d'abord, le Musée d'art contemporain, qui est le berceau de cette biennale, donc pour cette 11e édition qui est toujours présent, donc au nord de Lyon, vers la Cité internationale. La Sucrière, au sud de la Presqu'île, où nous reviendrons justement tout à l'heure avec les différentes chroniques qu'on va avoir. La Fondation Bulukian au niveau de la place Bellecour, qui est un petit espace très souvent qui met en valeur les pratiques artistiques, mais plutôt les pratiques artistiques politisées et socialisées, si on peut dire. Donc n'hésitez pas à aller voir cet espace, nous y reviendrons dans les prochaines émissions également. Et enfin, nouvel espace de la Biennale d'art contemporain, jamais encore mis en scène, c'est l'usine Taz à Vaux-en-Velin. Et pour commencer, place à la Sucrière, où Estelle va pouvoir nous parler d'une œuvre qui lui a plu, une œuvre de vidéo, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Alors, plutôt que de vous faire un rapport circonstancié de tout ce qu'on peut voir à la Sucrière, j'ai choisi de vous parler d'un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a semblé être, on va dire, l'œuvre la plus forte exposée à la Sucrière. Il s'agit d'un film en couleur de 40 minutes de l'artiste vénézuélien Javier Tellez. Ce film s'appelle « Le rhinocéros de Dürer » et il est le résultat d'une collaboration entre l'artiste et des patients d'un hôpital psychiatrique de Lisbonne. Que peut-on voir dans ce film? Ce que l'on voit au premier abord, c'est un rhinocéros qui se promène dans la cour intérieure d'un panoptique d'un hôpital psychiatrique de Lisbonne.
Excuse-moi Estelle, je te coupe, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que tu nous parles d'un rhinocéros dans un panoptique?
C'est ça. Alors, précision,
oui, s'il
qu'est-ce
te plaît.
Qu'un panoptique? Un panoptique, c'est une structure carcérale qui a été imaginée par Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, qui a pour particularité d'être une structure circulaire, avec au centre une tour dans laquelle est placé un surveillant qui peut, depuis cette tour, surveiller tous les incarcérés, tous les gens qui sont en prison, sans que ceux-ci ne sachent à quel moment ils sont observés. Et pourquoi ce terme est resté, on va dire, dans les mémoires, c'est grâce, on va dire, à l'analyse qu'en a fait Michel Foucault dans Surveiller et punir, où il fait de la structure architecturale du panoptique une métaphore de la société disciplinaire en général, dans laquelle la surveillance est intériorisée par les personnes surveillées. Et Quant au rhinocéros, Paul, ce n'est pas un vrai rhinocéros. C'est une statue très réaliste de rhinocéros qui est poussée sur une planche à roulettes par des gens. Et qui sont ces gens? Ce sont les patients avec qui a travaillé Javier Tellez. Et ce sont ceux qui jouent le rôle, les personnages d'internés dans ces cellules du panoptique de l'hôpital psychiatrique de Lisbonne. En effet, il ne s'agit pas du tout d'un documentaire sur la réalité de l'internement psychiatrique, mais d'une fiction. C'est-à-dire qu'ensemble, artistes et patients ont écrit un scénario fictionnel, des textes qui sont prononcés en voix off au cours d'un film, et qui ont inventé des personnages ensemble. Plus précisément, donc, le film est constitué d'une narration, basée sur une succession de plans, sur les faits et gestes de chacun à l'intérieur de leur cellule. C'est toujours le même procédé cinématographique à l'œuvre, c'est-à-dire à la fois un gros plan sur le numéro de la cellule, puis un gros plan sur le hueton de la porte de la cellule, puis une entrée dans la cellule, même s'il est clair que tout est vu symboliquement à travers le hueton. Ainsi, donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous est donné à voir ce que nous ne pouvons pas voir d'habitude, c'est-à-dire ce qui se passe derrière les portes de ces cellules toujours fermées, l'espace privé, au sein d'un espace plus que public, c'est-à-dire surveillé. Et derrière ces portes, on découvre des individus dont on ne sait pas le nom, dont on ne sait rien, si ce n'est ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire, car voilà précisément ce que nous voyons dans ce film. Nous les voyons faire, c'est-à-dire se livrer à des activités différentes, particulières à chacun, et qui sont chacune comme des inventions du quotidien, selon le terme de Michel de Certeau.
Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser ces activités? Parce que finalement, ces personnages sont dans leur cellule. Ils sont enfermés donc dans l'espace, et pourtant ils se livrent à des pratiques personnelles, c'est ça?
Alors voilà, que font ces gens dans leur cellule? Donc il y a plusieurs cas. Donc il y a une femme par exemple qui écrit chaque jour ce qu'elle imagine des activités et des pensées des autres dans leur cellule. Il y a aussi un homme qui soulève des poids, qui fait du sport toute la journée et qui regarde ses mains de temps en temps en se disant qu'elles sont maintenant inapte à faire des choses délicates. Il y a aussi une femme qui se met à danser après s'être apprêtée comme pour sortir. Et il y a aussi un homme qui joue aux cartes, une casquette de capitaine sur la tête comme s'il était le commandant d'un bateau. Et en fait, à travers tous ces portraits d'activité, alors qu'on s'attendrait en fait à un film sur, la façon dont l'environnement carcéral, dont la structure du panoptique donne lieu à une intériorisation de la discipline dans les corps qui sont devenus des corps dociles, soumis, donc selon, on va dire, une analyse foucauldienne de la technique politique des corps. En réalité, ce qu'on voit à travers ces portraits d'activité, c'est plutôt une négociation avec cet environnement contraignant par le biais de ces pratiques quotidiennes triviales. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une invention du quotidien et que j'ai évoqué Michel de Certeau, puisque c'est lui qui parle de manière de faire comme des formes subreptices, donc là je cite, formes subreptices que prend la créativité dispersée, tactique et bricoleuse des groupes et des individus, pris désormais dans les filets de la surveillance.
Alors d'accord, donc du coup, si je comprends bien, on a dans cette vidéo la représentation de ces internes d'un asile psychiatrique qui se livrent à ces pratiques que tu as décrites tout à l'heure, Estelle, mais finalement, ce sont des fous, donc ces pratiques, comment les qualifier vu que ce sont des pratiques de névrosé finalement?
Oui, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée en fait, c'est qu'on aurait pu, on pourrait faire une lecture des portraits de ces pratiques comme justement la preuve matérielle que ces gens sont fous, puisque par exemple cette femme qui s'apprête comme si elle allait sortir et puis qui finalement ne fait que danser à l'intérieur de sa cellule, on pourrait penser que voilà, que c'est une exemplification de sa folie. Et au contraire, moi, j'ai eu l'impression que c'était la preuve que tous ces gens étaient profondément sains d'esprit. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient la capacité d'inventer dans un espace-temps où il n'y a rien à faire, où par ailleurs les contraintes extérieures sont très fortes. Et finalement, il y a une nécessité de structurer leur temps, de se donner, de s'astreindre à faire des choses pour en réalité survivre mentalement en quelque sorte.
D'accord, alors si je puis me permettre, du coup, cette nécessité que tu évoques pour la sortie de l'espace carcéral, en fait, la sortie mentale de cet espace par les activités, il me semble que cette nécessité est quelque peu frénétique et quelque peu maniaque, et on pourrait rappeler, je vais en dire deux mots, on pourrait rappeler, il me semble que que ce n'est pas une première dans l'histoire de l'art de représenter, puisqu'il s'agit de représentation, de représenter ces manies, ces activités frénétiques qui permettent d'échapper au quotidien, ou d'en créer un nouveau, comme tu l'as dit. Alors pour cela, je prendrai un exemple plutôt ancien, puisqu'il s'agit d'une image que les auditeurs peuvent voir d'ailleurs sur le site de Transistor, puisqu'il y aura un lien, on va mettre un lien pour cette image, donc n'hésitez pas à regarder l'image pendant que j'en parle un petit peu. Donc il s'agit de la toile de Carpaccio qui s'appelle Deux dames vénitiennes. Donc c'est une toile qui a été peinte vers 1500 et qui est aujourd'hui conservée à Venise au musée Correr. Et cette toile donc représente ces deux dames, comment dire, comme dans un temps mort, c'est-à-dire dans un entre-deux, puisqu'elles ne sont pas dans une représentation sociale. Elles sont dans une sorte d'inactivité, bien que l'une d'entre elles semble justement jouer avec des chiens. Elles sont toutes les deux assises, l'une est accoudée à une balustrade, l'autre tient dans ses mains les deux pattes d'un petit chien, et dans l'autre un bâton qu'une tête féroce vient dévorer à l'extrémité de la toile. Mais bien qu'elles paraissent justement jouer ou exprimer de la tendresse envers un chien en lui tenant les pattes, elle est hors d'elle-même, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est, elle joue sans volonté, elle joue sans conscience. C'est ce que j'appellerais moi l'amusement, mais dans un sens assez précis, c'est-à-dire la distraction, l'oubli de soi et l'oubli de ce qu'on est en train de faire. Et donc, ça la rapproche de la notion, bien sûr, d'ennui. Et donc dans ce moment de relâchement, d'extraction si on veut du jeu social, puisque ces deux jeunes femmes sont a priori des femmes de haut rang, vu leurs habits, vu la construction de l'espace, qui est un espace riche avec un espace encerclé d'un portique qui fait référence aux riches demeures vénitiennes bien entendu. Et tout cela semble écarté par la présence de ces deux femmes qui ont leur regard dans le vide, un regard vague, et qui semblent vouloir, ou en tout cas ne pas pouvoir s'empêcher de s'extraire du monde dans lequel elles sont. Et donc avec une sorte de mécanique gestuelle, le fait de tenir le bâton, de jouer avec les chiens, mais ça reste mécanique, c'est-à-dire qu'on est hors de soi et on s'extrait de ce monde-là. Il me semble, Estelle, que ça a plutôt un rapport assez direct avec ce que tu nous décrivais tout à l'heure.
Oui, il s'agit vraiment de la même situation de départ, donc celle d'un ennui ontologique, mais avec une réponse, des réponses d'une intensité différente, je dirais. C'est-à-dire que, donc, dans ton cas, des gestes machinaux, et dans mon cas, donc, des activités auxquelles on s'astreint avec beaucoup de sérieux, parce que les contraintes extérieures sont d'une intensité différente aussi. Dans ton cas, il s'agit de contraintes sociales. Dans mon cas, on va dire que c'est un peu un paroxysme de contraintes extérieures.
Oui, effectivement. D'un côté, c'est vrai qu'il s'agit d'une prison. Donc dans la vidéo de la sucrière. Et pour ce qui est de la prison, c'est plus simple de comprendre la nécessité qu'il y a à s'échapper de cet espace, à créer un autre univers autour de soi. Moi, ça me rappelle par ailleurs, sans rapport direct, mais c'est juste une évocation, ça me rappelle le joueur d'échecs de Zweig, où effectivement il y a quelqu'un qui est dans une prison, dans une cellule, qui trouve un livre et qui va se donner corps et âme à ce livre et inventer un jeu d'échecs, le créer de ses propres mains, apprendre les règles, apprendre par cœur des parties. Et il me semble bien que c'est sur le même mode que ce dont on parle actuellement, c'est-à-dire de créer un autre monde. Mais pour ce qui est du modèle, donc effectivement, s'extraire de la prison nous permet de comprendre comment ces femmes vénitiennes peuvent s'extraire de leurs propres contraintes sociales. Je donnerai un autre modèle avec une image, donc cette fois de Chardin, qui est l'enfant au Toton, donc une toile qui est conservée au musée du Louvre, une toile de 1738, qui est assez connue d'ailleurs. Et en fait, on voit dans cette image un enfant qui est passé de l'étude, donc du savoir, de la contrainte sociale qui lui est imposée d'apprendre, avec le parchemin, la plume, la craie de sanguine qui est posée sur le bord de la table, qu'il a délaissée, pour se focaliser justement et pour privilégier le jeu. Donc le jeu représenté par cette toupie qui est en train de tourner, le toton. Et donc il a choisi le jeu face à l'étude, il a voulu s'échapper de ce monde-là en créant sa propre activité, en créant sa propre contrainte, et en fait il y est effectivement contraint à ce jeu. Pourquoi ? Puisque la toupie, le toton, est en train de tourner donc dans l'image de Chardin et focalise littéralement l'attention et du spectateur et de l'enfant dont le regard est complètement fixé, et justement cela crée une sorte d'hypnose totale. Et pour moi, cette hypnose ressemble largement à ce regard vague de ces deux femmes vénitiennes et à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que la conscience s'en va, la conscience va vers un ailleurs qui n'est pas celui justement de... Enfin, un ailleurs, un autre monde que celui dans lequel on est, celui des contraintes sociales, celui de l'apprentissage, etc.
Et est-ce que, Paul, parce que là tu parles d'un enfant dans le tableau de Chardin, est-ce que ce dont tu nous as parlé, c'est-à-dire à la fois cette capacité à s'absorber dans une activité qui permet de s'extraire, on va dire, d'une situation contraignante, est-ce que tu aurais un exemple de ça dans des tableaux qui représenteraient des adultes, puisque là on pourrait penser que finalement c'est l'absorption, la capacité à s'extraire sont des compétences propres à un enfant avec son profil particulier.
Oui, bien sûr. En gros, c'est une évidence. Le fait que l'enfant crée son monde et le plus sérieusement possible ça donne à des jeux, c'est déjà vu et revu, bien entendu. Mais ce que je disais, c'était que c'était surtout ici pour nous un modèle de pensée, un modèle de compréhension de ce type d'image et de ce type d'extraction dont on parlait tout à l'heure. Alors évidemment, chez l'adulte, on pourrait trouver un équivalent, notamment dans la peinture du 19e siècle, qui a largement développé ces figures-là. Je parle bien sûr de la figure qui, comme l'enfant avec sa toupie, est focalisée par exemple sur un verre d'alcool, sur un verre de vin ou un verre d'absinthe. Je parle d'absinthe puisqu'il y a ce célèbre tableau de Degas, l'absinthe, où on voit cette femme littéralement désœuvrée et vidée physiquement. Ou le tableau de Manet, La Prune, qui présente à peu près le même schéma, d'ailleurs les deux tableaux se répondent, qui fait également penser à toutes ces photographies qu'on connaît de Verlaine avec son verre d'absinthe et qui est comme hors de lui dans un état second. Je pourrais continuer la liste pendant très longtemps, chez Picasso, chez Van Gogh, etc. On trouve ces représentations-là d'un individu qui est comme focalisé sur un objet. Ce n'est plus une toupie, c'est un verre d'alcool. Toute son attention est portée là-dessus. Et cela lui permet de s'échapper, en fait, de s'extraire du monde dans lequel il est.
Alors, le remplacement que tu fais de la toupie par le verre d'alcool, en fait, apporte avec lui des problématiques différentes qui sont propres à la question de l'alcoolisme. Et finalement, qui serait peut-être un échec de la capacité à trouver une activité pour sortir de cet ennui, plus que finalement un remplacement, on va dire, littéral de la toupie par le verre d'alcool.
C'est-à-dire que, oui, effectivement, il n'y a pas de remplacement littéral, et c'est un discours plus large que portent les peintres, en fait, sur cette question de la présence de l'alcool, notamment chez les artistes. Bon, on pourrait faire un commentaire sociologique ou historique sur ces choses-là, l'importance des bars, par exemple, dans les pratiques artistiques à la fin du 19e siècle, bien sûr. Mais je pense qu'il faut surtout se rendre compte qu'il y a comme là une sorte de sous-genre du genre plastique. Le genre plastique comme le portrait, le paysage, etc. On a le genre de la scène de genre, donc qui représente les individus dans leur quotidien. Donc c'est bien notre sujet ici. Et on pourrait dire que dans cette scène de genre, il y aurait un nouveau type pictural qui serait la scène de l'ennui, qui est énormément développée à la fin du 19e siècle, également au début du 20e siècle. Je pense par exemple à tous ces tableaux viennois de Klimt ou de Schiele, représentant des personnages complètement désœuvrés et n'ayant pas de but à atteindre. Et finalement, c'est toute une image mélancolique qui se met en place. Alors, on va se rendre tout entier à cette mélancolie. C'est l'ennui généralisé de la condition humaine qui est représenté ici. Et finalement, ce qui nous intéresse, c'est tout ce que nous disent les peintres du corps humain. C'est-à-dire comment le corps est vidé, comment il s'affaisse. Alors chez Carpaccio, j'en ai parlé tout à l'heure, il s'agit d'un geste machinal. Cette femme qui est accroupie, penchée vers l'avant, et qui tend ses mains, son bâton au chien, mais qui n'y porte aucune attention. Mais ça pourrait être également, chez Picasso, souvent, c'est ça, un affaissement clair de l'esprit, du corps, et de l'esprit en même temps, et un vide à combler, et donc ce vide qui va être comblé justement par la présence de l'alcool ou d'autres choses. Je finirai sur un dernier exemple qui me semble porter justement tout cela au mieux. C'est un tableau de Hopper qui s'appelle L'Automate. Et ce n'est pas pour rien s'il s'appelle L'Automate, justement, donc un tableau de 1927. S'il s'appelle Automate, c'est justement pour insister sur cette absence de la conscience, ce corps abandonné de l'esprit. Et donc, bon, ce tableau, qu'est-ce qu'il représente? Il représente une femme dans un bar, en train de boire un café. Donc c'est plus de l'alcool, mais c'est toujours quelqu'un dans un bar, c'est pas étonnant, il joue sur un modèle ici. Et elle est seule dans cet espace. Les yeux sont cernés et remplis de noir. On ne distingue même plus le regard flou que j'évoquais tout à l'heure dans le tableau de Carpaccio, dans les tableaux de Manet ou de Degas. Et finalement, c'est comme une métaphore de l'âme qui aurait quitté le corps, donc par les yeux bien sûr. Et donc l'espace même de la représentation est complètement vidé. On voit dans l'arrière-plan ce qui devrait être normalement la vitre qui ouvre sur la ville extérieure. Simplement le reflet des lampes de la salle qui s'ouvre vers un vide, vers un noir, et qui est finalement une sorte d'image de l'absence, une image de l'absence d'humanisation et du désœuvrement total. Donc en fait, il y a comme ça un collage mental dans cette peinture entre cette figure et cet espace. En fait, la figure ne dialogue pas du tout avec l'espace. La figure et le lieu se contredisent complètement, d'ailleurs. Et cette extraction du monde est assez inquiétante, finalement, puisque ici déshumanisante complètement et automatique, comme le dit le titre, sans accomplissement pratique. Donc c'est peut-être ça la nuance qu'on pourrait évoquer par rapport à ce que tu nous disais, Estelle, tout à l'heure, par rapport à la vidéo de la sucrière. Ici, il n'y a plus du tout d'activité. Et donc, on pourrait dire que là, je suis en train de présenter une petite crise métaphysique des peintres et des êtres humains au XXe siècle en général. Mais pour revenir à quelque chose de plus positif, je pense, Estelle, est-ce que tu pourrais me dire, finalement, si ces activités que tu as présentées dans cette vidéo de la sucrière ne sont pas des activités rassurantes, en fait, des activités rassurantes, et cette vidéo ne serait-elle pas une vidéo des plus optimistes?
Alors, ce serait une vidéo qu'on pourrait qualifier d'optimiste par rapport en fait aux situations que tu as décrites dans les tableaux dont tu as parlé, puisqu'effectivement, dans le cas de mon film, enfin du film de Javier Téllez, les personnes filmées réussissent à prendre des activités au sérieux et créer du quotidien là où les personnages dont tu as parlé échouent véritablement à le faire et en fait subissent en quelque sorte le quotidien puisqu'ils n'arrivent à le prendre en main et à l'inventer. Néanmoins, j'en ai pas parlé au début dans ma présentation, mais il y a quand même une atmosphère très mélancolique qui envahit vraiment tout le film. Donc, pour plusieurs raisons, de par, on va dire, les couleurs très passées qui sont utilisées dans le film, l'absence de lumière, le leitmotiv du fado, donc qui revient à plusieurs reprises dans le film.
Alors, excuse-moi, tu pourrais préciser fado, qu'est-ce que c'est en fait?
Alors, je voudrais pas dire de d'ânerie. Le fado, c'est un chant portugais, un type de chant portugais qui est, on va dire qu'il se rapproche de la plainte. C'est, on va dire, en rapport avec la perte de l'être aimé en général, ou avec une expression de la nostalgie. Donc cette musique qui revient plusieurs reprises dans le film. Et aussi, finalement, j'en ai peu parlé, mais la figure du rhinocéros qui apparaît dans le titre, qui est finalement le personnage éponyme, et qui apparaît comme le rhinocéros spécifiquement de Dürer. Donc on sait tous que Dürer, c'est de ce qu'on va dire le terme qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est le terme de mélancolie, et je pense que ce n'est pas anodin s'il a voulu préciser que c'était celui de Dürer et non pas n'importe quel rhinocéros, et que c'était une orientation d'une tonalité en fait pour ce film. Par ailleurs, je pense que par rapport à tout ce que tu as dit, Paul, on pourrait aussi penser que c'est l'inadaptation, qu'on est tous plus ou moins inadaptés dans un premier temps à vivre, en tout cas à se créer un quotidien et que finalement la figure de ce rhinocéros dans ce panoptique qui est beaucoup trop petit pour cette masse qu'est le rhinocéros et qui n'est pas du tout son environnement naturel, finalement cette inadaptation, c'est vraiment le facteur de cette mélancolie, la source de cette mélancolie, c'est le propre des personnages dont tu as parlé et c'est le propre de ces internés en asile psychiatrique dont j'ai parlé également.
D'accord. Mais alors du coup, je suis en train de me dire que si on est inadapté à vivre, si on est inadapté par rapport au monde dans lequel on est, qu'est-ce qui pourrait être finalement les activités de survie ? Je proposerais pour commencer l'écoute de la radio, une des premières choses à faire. Donc merci Estelle, mais juste donc du coup pour finir cette petite vision de l'actualité des arts et de la Biennale d'art contemporain, je pense qu'on pourrait maintenant laisser place à Thibaut pour un petit regard sur, une petite focalisation sur une œuvre d'art. À toi Thibaut.
Donc pour ce premier regard sûr, je vous propose de découvrir le nouveau site de la Biennale d'art contemporain, l'usine Taz à Vaux-en-Velin. Donc ancienne fabrique de soie, qui est inscrite à présent au patrimoine industriel, friche qui est en pleine reconversion puisqu'elle est au cœur d'un projet immobilier. L'usine Taz accueille une installation de l'artiste argentin Jorge Macchi, baptisée Marianne Bad. Cette création est un écho au film d'Alain René, l'année dernière à Marienbad, qui a été réalisé en 1961 et qui a été diffusé au Comédia courant septembre au moment de l'ouverture de la Biennale, en présence bien sûr de l'artiste Jorge Macchi. Donc je rappelle brièvement le cadre du film pour mieux saisir ce dont je vais parler par la suite. Donc dans un grand hôtel de Marienbad, un homme tente de persuader une jeune femme qu'ils ont eu une liaison dans le même hôtel l'année précédente, sans que l'on puisse déterminer la part de vérité ou de mensonge qui sous-tend les allusions répétées du personnage qui est campé par Giorgio Albertaz. Les scènes se déroulent alternativement dans les salons et chambres de l'hôtel et également dans le parc qui entoure l'édifice. Et c'est ce jardin, ce parc, à l'ordonnancement résolument classique, que Jorge Macchi a restitué pour les visiteurs de l'usine Taz. Donc, on est d'abord désappointé par la démarche de Jorge Macchi, qui semble se borner à proposer aux visiteurs la représentation d'une représentation, ainsi que l'indique le guide de la Biennale. Puisque lorsqu'on visite ce jardin, on voit des arbustes, des buis, des parterres de fleurs, des sculptures antiquisantes, une grande allée centrale de gravier, et on ne sait comment aborder ce qui paraît n'être qu'un morceau de jardin à la française transposé à Vaux-en-Velin. Il est vrai que le contraste est saisissant entre la régularité et la perfection formelle de l'installation et son environnement immédiat, qui est fait de débris et autres déchets industriels sur fond de paysages en reconversion, mais ça ne semble pas suffire pour apprécier cette installation. Il me semble donc que tout l'intérêt de l'installation repose sur le cheminement qui est proposé aux visiteurs pour la découvrir. D'abord depuis l'intérieur de l'usine Taz, à travers les fenêtres, et ensuite grâce à une courte promenade qui permet d'arpenter l'allée centrale du jardin. On se souvient en effet que dans le film d'Alain René, le parc est d'abord aperçu selon un point de vue qui dérobe au spectateur toute vision d'ensemble de l'hôtel, et ce n'est que vers la fin du film que surgissent les premières vues extérieures de l'hôtel, dont la façade est enfin aperçue depuis le jardin. Le parcours proposé aux visiteurs de l'usine Taz paraît restituer les procédés filmiques de l'année dernière à Marienbad, en imposant aux visiteurs une succession d'apparitions, le jardin vu depuis l'intérieur de l'usine, puis l'usine vue depuis le jardin, qui font écho donc à l'œuvre de René. On notera d'ailleurs l'intéressant parallèle entre la façade de l'hôtel filmé par Alain René et celle de l'usine Taz, vue depuis le jardin, puisqu'on est en présence de deux avant-corps qui font saillie sur le reste de la façade, qui rappellent parfaitement l'ordonnancement architectural de l'édifice filmé par René. Le dernier aspect qui a retenu mon attention est la mise en résonance de l'œuvre de Jorge Macchi avec les autres installations présentées à l'usine Taz. Quand on découvre le jardin depuis l'usine, en effet, on est happé par la répétition incantatoire d'une phrase surgie de la vidéo réalisée par l'artiste sud-africaine Tracé Rose. Cette phrase, « Regarde un nègre, maman, regarde le nègre, j'ai peur », est extraite de l'ouvrage de Frantz Fanon, « Peau noire », et se substitue de manière impromptue aux litanies de mots, toujours semblables, qui scandent le film de René, dont elles sont quasiment les seules paroles. Enfin, puisque les notions de mémoire et de souvenir, même dans ce qu'elles ont de factice, sont au cœur des réflexions de Georges Emaki et fondent le propos du film de René, je me permets d'évoquer ici quelques éléments casuels qui sont venus ponctuer ma visite. L'usine Taz est à proximité de l'aéroport. Le ciel était donc traversé d'avions et c'était le premier mercredi du mois. Et à midi, les sirènes de Vaux-en-Velin se sont mises à retentir. Et à ce moment-là, j'ai rêvé un instant que ce jardin si parfait pourrait disparaître au milieu des débris de la friche industrielle.
Oui, donc nous espérons vous avoir donné envie d'aller visiter la Biennale d'art contemporain avec donc l'usine Taz de Vaux-en-Velin et la sucrière donc sur la presqu'île au sud au niveau de la station de métro de tram Montrochet. Par ailleurs, donc n'hésitez pas à écouter les autres émissions de Transistor cette semaine. Donc bientôt une émission de présidence avec un focus sur la question de l'éducation. Voilà, nous vous remercions. Merci Thibaut, merci Estelle et à bientôt pour une nouvelle émission Transversale.